Radio Kapi. Initialement prévue pour ce lundi 3 août, la rentrée scolaire aura finalement lieu le 10 août prochain. Mais la CIECO, syndicat des enseignants du Congo qui le confirme, formule des recommandations parmi lesquelles la désinfection des établissements scolaires et le respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus. Les contributions de la République démocratique du Congo auprès des organisations internationales doivent être payées urgemment. Recommandation faite au gouvernement par le président de la République au cours du Conseil des ministres de vendredi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entrevoit également mener des démarches pour réintégrer la liste des pays africains éligibles à un statut de partenaire commercial privilégié avec les États-Unis. Charles-Luc Ngoudier est notre invité, délégué syndical du complexe scolaire Cardinal Maloula. Il parle des difficultés que les enseignants et les écoles privées agréées éprouvent à la suite des conséquences dues à la pandémie du coronavirus. Merci de vous réveiller sur Okapi et bienvenue à l'écoute de ce journal qui partira de Kinshasa. Le syndicat des enseignants du Congo, CIECO, confirme la reprise des enseignements au 10 août prochain. Cécile Tshombo, secrétaire générale de cette structure, l'a dit en marge de l'Assemblée générale hier dimanche ici à Kinshasa. Par ailleurs, elle recommande aux autorités de désinfecter les établissements scolaires et de faire respecter les gestes barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus. Cécile Tshombo le dit au micro de Paul Matendo.
Nous recommandons ici que les écoles soient très bien nettoyées. Par rapport à toutes les mesures d'hygiène, l'enseignant soit protégé pour sa santé et que les élèves aussi soient protégés. Si les écoles ne sont pas nettoyées dans leurs enceintes et dans leurs environnements, il peut y avoir contagion par rapport à ceux qui sont malades. Mais toutefois, nous pensons que des instructions ont été données par le secrétaire général pour que chaque chef d'établissement puisse prendre à bras le corps ces problèmes, puisque c'est un problème de tout le monde, ça ne concerne pas seulement les gouvernements. Par rapport à la distanciation, il est de rigueur que la distanciation soit respectée et que le port des masques aussi soient respectés et apprendre aussi à l'enfant à tousser dans les coudes. Ce sont des mesures qui ont été prises partout dans le monde.
Restons à Kinshasa, conséquence de la pandémie à coronavirus. Le chef de l'État instruit le Premier ministre de réfléchir sur les voies et moyens pour aider les écoles privées agréées. D'après lui, ces écoles sont durement impactées et secouées par les effets de Covid-19. Elles connaissent des difficultés sur le plan organisationnel, fonctionnel et même financière. Pour en savoir davantage, suivons cet élément que nous propose Billy Yvan Lutumba qui a approché Charles-Luc Ngoudier, un délégué syndical au complexe scolaire Cardinal Maloula, une école privée et agréée de grand renom ici à Kinshasa.
Cette grande école privée agréée qui fonctionne à l'IMT est comme toutes les autres fermée depuis mi-mars 2020.
Arrivé à la fin du mois de mars, nous n'avions pas reçu nos salaires. Certaines écoles ont réussi à payer la moitié. À partir d'avril jusqu'au mois de juillet maintenant, nous n'avons pas été payés. Et les promoteurs nous disent que les caisses étaient vides, étant donné que les parents ne payaient pas les minervales. C'est vraiment pénible. Nous ne savons pas prendre nos familles en charge, nourrir les enfants. Nous sommes la plupart des locataires.
Survivre pour le personnel des écoles privées est fruit de miracle, conclut-il en s'interrogeant maintenant comment vont-ils s'y prendre pour cette reprise des cours annoncée.
Les classes pléthoriques doivent être éclatées. Une classe de 40 doit être éclatée en deux. Ainsi, on aura plusieurs sixièmes. Cela demande que les enseignants reprennent et travaillent. D'abord, impayés pendant 4 mois. Il est demandé aux écoles les outils nécessaires pour respecter les gestes barrières. Ajoutons aussi la désinfection de salles de classe. Tous ces éléments-là vont demander des dépenses. Là, nous serons vraiment devant un fait accompli.
La plus grande question, souligne ce défenseur des droits des salariés, reste la reprise pour les classes inférieures qui exigeront beaucoup plus.
L'aide du gouvernement est vraiment nécessaire pour que ces écoles qui soutiennent les gouvernements dans le système éducationnel puissent aussi fonctionner et arriver tous à clôturer cette année commencée depuis septembre 2019.
À cette allure, conclut notre interlocuteur, seule la bonne foi du gouvernement sauverait l'avenir scolaire des enfants et des écoles privées agréées.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande au gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour payer les contributions de la République démocratique du Congo auprès des organisations internationales. Parmi elles, l'ONU, l'Union africaine et la CEEAC. Il l'a dit lors du Conseil des ministres tenu le vendredi dernier. Toujours sur le plan diplomatique et bilatéral, le gouvernement de la République démocratique du Congo entrevoit également mener des démarches pour réintégrer la liste des pays africains éligible à un statut de partenaire commercial privilégié avec les États-Unis. Billy Ivan Lutumba.
Ces orientations issues du Conseil des ministres laissent entrevoir une volonté du chef de l'État congolais à une requalification de la RDC dans le concert des nations. Cette option de régulariser les paiements des cotisations de la RDC intervient au lendemain de l'obtention du poste de commissaire à la promotion du genre, développement humain et social de la commission de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans le cadre de la présidence tournante, la prochaine présidence de la CEAC est également attribuée à la RDC. Parlant de la AGOA, African Growth and Opportunity Act, cette loi américaine permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter vers les États-Unis d'Amérique sans douane ni contingent des produits répondant aux règles d'éligibilité et d'origine définies. Pour être éligible à la AGOA, il faut atteindre un certain niveau de progrès démocratique et surtout en ce qui concerne les droits de l'homme. À ce propos justement, le gouvernement estime que le pays enregistre assez des progrès depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Pour ce faire, un rapport circonstancié détaillant l'ensemble des éléments en vue du retour de la RDC à la AGOA sera envoyé pour disposition aux États-Unis. Rappelons que la décision excluant Kinshasa de la AGOA avait été prise depuis 2010 par le président américain Barack Obama, sanctionnant selon lui la passivité de l'administration congolaise devant les multiples cas de violation des droits de l'homme.
Nord Kivu, le gouverneur Karline Zanzou Kassivita a interpellé samedi différents responsables des services étatiques sur la gestion des conflits des terres, conflits coutumiers et autres questions cause de l'instabilité de cette province. C'était à la clôture du dialogue social tenu à Goma du 30 juillet au 1er août. Occasion pour Kassivita de fixer toutes les communautés ethniques qui se plaignent d'être marginalisées dans la gestion de la province du Nord Kivu. Les détails avec vous, Sifa Magou.
Dans son mot de clôture de ces dialogues dits des vérités, le gouverneur Nzanzu Kassivita a fustigé l'affairisme qui caractérise plusieurs détenteurs du pouvoir administratif et coutumier dans l'exercice de leurs fonctions. Il a en outre condamné une certaine habitude d'ethniciser toutes les questions sociopolitiques qui s'observent au Nord Kivu. Je m'adresse aux conservateurs et chefs de division qui sont ici. Utilisons la loi et laissons l'affairisme dans ces secteurs vitaux. Je ne veux pas que les autorités subissent des pressions des communautés pour défendre leurs fils. Si celui-ci ne respecte pas la loi, il sera sanctionné.
Le maire de la ville, les bourgmestres.
Leur travail est maintenant de motiver les lotissements même là où ils ne doivent pas être. Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été adoptées sur les questions spécifiques et adressées au gouvernement central et provincial pour la résolution des problèmes, notamment sécuritaires. Notez que plusieurs autorités territoriales, les maires des villes, la société civile, les délégués des communautés, députés et sénateurs ont pris part à ces assises. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
À Kalemie, le torchon brûle entre les habitants du lotissement Kainda et le gouvernement provincial du Tanganyika. Le gouvernement provincial dit ne pas connaître un lotissement dans cet espace qu'il compte mettre en valeur conformément à son plan d'aménagement. De leur côté, dans leur mémorandum adressé au président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika le 24 juillet dernier, les occupants affirment que le lotissement Kainda existe bel et bien. D'après les contestataires, ils sont plusieurs centaines à revendiquer leur droit de propriété sur ce terrain. Ce lundi 3 août, il compte encore organiser une action. Le point avec Expedi Mwamba Mobi.
Entre le gouvernement provincial du Tanganyika et les habitants du lotissement Kainda, c'est le dialogue des sourds. Pour les habitants de Kainda, il existe bel et bien un lotissement du nom de Kainda, l'un d'eux.
Kainda a été loti il y a des années et des années. Et avant même l'avènement de la province ici, les gens ont leur titre en bonne et due forme. Mais aujourd'hui, on veut les faire partir. Ça, c'est de l'escroquerie que l'État, en particulier le gouvernement provincial, veut faire à l'égard de la population. Donc tout ce qu'on dit là, c'est le plan aménagement, ce sont des manœuvres.
Faux, rétorque le ministre des Affaires foncières, Fidèle Kitenge.
À cet endroit, il n'y a pas un arrêté qui porte sur le lotissement. Bien sûr que vous parlez des habitants de Kainda. C'est quel Kainda? Nous avons trouvé un arrêté du 15 septembre 2001, signé par le vice-gouverneur à l'époque du RCD, il est créé un lotissement de plus ou moins 442 parcelles à Kainda. Est-ce que cette terre-là contient-elle 442 parcelles? Mais où est l'arrêté portant extension de l'arrêté Kainda? Il n'y en a pas.
Kalemi, expédie-moi Bamoubi, Radio Okapi.
La gouvernance foncière au Sud Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu divise les autorités et la société civile urbaine. Cette dernière a adressé une lettre ouverte au gouverneur de province à qui elle demande d'user de plus de rigueur dans la gestion du domaine foncier. Le ministre provincial des infrastructures promet de réagir ultérieurement. Jean Kassami, correspondance.
La paume des discordes parties de la construction anarchique observée partout, y compris sur des sites impropres tels que les cimetières et les morcellements de parcelles du domaine public de l'État. La société civile noyau de Bukavu reproche à l'autorité provinciale de croiser les bras face aux désastres fonciers observés partout dans la ville. D'après la société civile, les retombées sont multiples, les éboulements, les incendies et autres catastrophes liées à la mauvaise gouvernance foncière. Les auteurs de la lettre ouverte demandent au gouverneur de province de jouer les rôles de l'Église au milieu du village en faisant aboutir les enquêtes sur la spoliation des cimetières et le morcellement désordonné des parcelles et des maisons de l'État, mais aussi freiner la spoliation des marchés et des espaces publics. En réaction, le ministre provincial des infrastructures promet de se concerter avec les gouverneurs de province en vue de dégager un point de vue consensuel aux revendications des acteurs de la société civile urbaine de Bukavu. Jean Kassami, Radio Okapi.
Le gouverneur de la province du Haut-Touélé a présenté le bilan à mi-parcours, une année après son avènement à la tête de cette juridiction. C'était au cours d'un point de presse tenu samedi dernier à partir de Ouattara, où il séjourne en mission officielle. Les réalisations de Christophe Basséané Nanga se sont focalisées notamment sur les infrastructures, son cheval de bataille. Le point avec Jacques Moukonkole.
Selon le gouverneur de province, Christophe Basséané Nanga, tous les six territoires de sa juridiction sont touchés par cette politique. Ouattara, par exemple, aurait connu la construction et la réhabilitation de plus de 30 km de voiries et de plusieurs kilomètres de routes sur l'axe Ouattara-Issirou. Concernant Faradjé, il a épinglé la modernisation du poste de contrôle d'Ebo et d'autres axes routiers en pleine réhabilitation. Dungu, Niangara, Rungu et Wamba ne sont pas demeurés en reste dans cette dynamique de réhabilitation des infrastructures. Par rapport à la ville d'Issirou, le gouverneur a rappelé la réhabilitation d'une cinquantaine de kilomètres de la voirie urbaine, doublée de la construction des ponts et des résidences des gouverneurs, ainsi que la réhabilitation du gouvernorat. L'acquisition des engins destinés à tous ces travaux a été également signalée. Cependant, Christophe Basséané Nanga a évoqué les défis à relever. Ils sont liés notamment à la diversification de l'économie, axée essentiellement sur l'exploitation minière. Ses yeux sont actuellement tournés vers l'agriculture et l'élevage, ainsi que l'exploitation du bois. Néanmoins, il plaide pour l'adaptation de la réglementation en la matière par le gouvernement central. Enfin, il a lancé un appel aux investisseurs car, souligne-t-il, ils pourront bénéficier d'une taxation presque nulle grâce aux réformes de la fiscalité en cours. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Bounia, 15 présumés criminels parmi lesquels 3 femmes ont été présentées ce dimanche au public. Selon la police, il s'agit des personnes impliquées dans plusieurs vols à main armée dans la ville. Pendant l'opération, l'investigation menée par l'unité de la police criminelle des biens récupérés, dont des sacs de cannabis, ont également été présentés. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle le gouverneur de l'Ituri a pris part. Un reportage signé Jean-Claude Loki.
Parmi les biens qui ont été exposés dans la cour de l'état-major de la police nationale congolaise ce dimanche à Bounia, il y avait notamment des motos, des matelas, des téléviseurs, des armes à feu ou encore des ordinateurs portatifs. Ce sont des objets volés au domicile de certains habitants ici à Bounia entre les mois d'avril et de juillet dernier. Selon le général Sabiti Abdallah, commandant de la police en Ituri, des équipes de la police criminelle ont été déployées sur le terrain après une série de vols à main armée que la ville de Bounia a enregistré durant cette période. Parmi les personnes arrêtées figurent des présumés auteur de meurtre de 2 personnes au marché central du Bounia. Les victimes avaient été abattues par balles par des inconnus. Le commandant pénitentiaire de l'Ituri salue la collaboration des autorités judiciaires de la province voisine de la Tchopo qui a permis de mettre la main sur certains bandits qui opèrent entre les deux entités. Sur les 15 présumés bandits présentés ce jour, 3 sont des soldats des FARDC. Le gouverneur de l'Ituri a condamné le fait que ce soit des agents censés protéger la population qui s'adonnent à cette pratique criminelle. Séance tenante, 15 sacs de chanvre saisis ont été incinérés. Bounia. Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud a désormais dépassé le seuil de 500 000 infections au Covid-19. La nation arc-en-ciel est le cinquième pays le plus touché au monde par la crise sanitaire. Polémiques et accusations de corruption liées à la crise sanitaire se sont multipliées ces derniers jours dans le pays. Officiellement, on dénombre 8153 victimes du coronavirus en Afrique du Sud. Des chiffres sous-estimés selon les experts qui observent une hausse de 60% des décès sur les registres nationaux par rapport à l'an dernier. Selon certains, le bilan serait aux alentours de 22 000 morts. Autre polémique dont doit se justifier le président Cyril Ramaphosa, celle concernant les accusations de corruption dans la gestion des fonds publics alloués pour la crise sanitaire. De nombreuses affaires apparues ces derniers jours touchent des collaborateurs du président. L'ONG française Sherpa a annoncé vendredi 31 juillet avoir déposé plainte au parquet national financier pour corruption, entre autres visant un ex-fonctionnaire français proche du président guinéen Alpha Condé et ses activités en Guinée. L'association anticorruption le soupçonne d'avoir touché plusieurs millions d'euros dans le cadre d'un permis de concession minière impliquant la compagnie anglo-australienne Rio Tinto.
L'invité.
Notre invité est Charles-Luc Ngoudier. Il est délégué syndical du complexe scolaire Cardinal Malula. Dans cet entretien avec Billy Yvan Lutumba, il parle des difficultés que les enseignants et les écoles privées agréées éprouvent à la suite des conséquences dues à la pandémie du coronavirus.
Monsieur le délégué syndical Charles-Luc Ngoudier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le chef de l'État vient d'instruire le premier ministre de mener des études afin d'assister les écoles privées et agréées suite au Covid-19. Comment avez-vous passé le premier moment depuis l'arrêt des cours pour faire face à la propagation du Covid-19?
Depuis le 18 mars, nos écoles privées et d'une manière générale toutes les écoles ont arrêté sur demande du président de la République. D'abord, sur le plan social, ça nous a vraiment frappé parce que les écoles n'arrivaient pas à payer les agents. Le mois de mars n'a pas été payé dans certaines écoles, d'autres c'est la moitié. Alors avril jusqu'au mois de juillet ici, nous n'avions pas été payés à cause du manque d'argent. Les parents n'ont pas payé et les écoles n'ont pas été à mesure de prendre en charge le personnel. Nous avons passé des moments très difficiles en tant que responsables. Donc c'est une des conséquences sociales très importantes de cette pandémie pour les écoles privées agréées dans lesquelles nous sommes en train de travailler, ça fait déjà 2 années.
Et maintenant que le gouvernement entrevoit la reprise des cours dans les différentes écoles, vous en tant qu'école privée, à votre niveau, quelles sont les probables difficultés auxquelles vous pouvez être confronté selon le fonctionnement de votre école?
Ça, c'est un problème très sérieux. Comment une école qui n'est pas en mesure d'abord de payer son personnel peut être en mesure de respecter toutes les conditions qui ont été données par les ministères de tutelle pour la reprise des classes terminales? Je commence par d'abord vous dire que on nous a instruit d'éclater les classes terminales en plusieurs classes, c'est-à-dire une classe de 6e de 30 plus ou 40 élèves peut être éclatée en 2 classes. Si vous en avez beaucoup, vous aurez plusieurs classes de 6e. Une deuxième mesure, on nous demande de respecter les gestes barrières, c'est-à-dire avoir les lave-mains devant les salles de classe, avoir les thermoflash, avoir le liquide hydroalcoolique, aussi disposer pour, dans la mesure du possible, des cache-nez. Tout cela, monsieur le journaliste, ça demande de débourser les moyens et en plus la désinfection des salles de classe. Les enfants ne peuvent pas rentrer dans ces salles de classe si ces classes n'ont pas été désinfectés. On risque d'être contaminé parce que nous avons abandonné ces classes il y a 4 mois. 4 mois, donc pour rentrer, il faut quand même qu'on puisse désinfecter. Les écoles privées qui ne reçoivent aucun subside doivent débourser des moyens pour aller chercher les spécialistes de l'environnement ou, je sais pas moi, les maisons qui sont spécialisées pour venir désinfecter les classes. Donc, ça demande des moyens. Moi, je pense à ce niveau, c'est un peu difficile s'il faut disposer tous les moyens qui ont été demandés, proposés par le gouvernement pour la reprise de ces classes des 6e.
Oui, le social des enseignants, le fonctionnement de l'école sur le plan matériel et autres, c'est une chose. Mais à votre niveau, en tant qu'enseignant, vous êtes délégué syndical de votre école. Quelles sont les dispositions que vous prenez en tant que corps enseignant pour que vous puissiez être à même de faire face à la contamination ou à la propagation du Covid-19 s'il faut reprendre les cours avec toutes les autres classes ou seulement même au niveau des classes terminales?
D'abord, nous respectons toutes les mesures que les ministères de la Santé avec
avec les secrétariats de la Riposte sont en train de donner régulièrement à la télévision. Nous nous sensibilisons pour que nous puissions nous déplacer avec le masque et arriver sur place, nous devons nous laver la main et aussi si nous avons de l'alcool, de liquide hydroalcoolique, nous pouvons les utiliser. Et nous nous sommes déjà préparés aussi avec certaines réunions bien avant la rentrée pour que nous puissions sensibiliser les élèves à respecter les gestes barrières. Ça, c'est vraiment très important pour vraiment mettre ériger une barrière contre la contamination de cette pandémie, de ces virus. Au niveau de l'école, c'est aussi important parce que cela demande vraiment, vraiment des moyens afin de faire respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le ministère.
Concrètement, s'il y a un appel à assistance à lancer au niveau du gouvernement congolais, ça peut être quoi votre appel en tant que délégué syndical d'une école privée et agréée?
En tout cas, nous ne pouvons que lancer un appel, un SOS auprès du gouvernement afin qu'il nous vienne en aide. Les écoles n'ont pas été en mesure de payer d'abord les personnels, de prendre en charge les personnels. Je ne sais pas si ces écoles seront en mesure de se doter de tous ces moyens qui ont été demandés par les ministres ou, je ne sais pas, le gouvernement pour que nous puissions reprendre en bonne et due forme. Que le gouvernement nous vienne en aide. L'aide du gouvernement est vraiment importante pour les écoles privées qui ne fonctionnent que des frais des parents. Pendant cette période ici, les parents ne versent rien, donc les caisses sont vides. Ces écoles viennent au secours du système éducatif, aident aussi le gouvernement à bien former les jeunes qui sont les responsables de demain. En tout cas, ces écoles vraiment attendent cette aide du gouvernement central.
Monsieur le délégué syndical, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ben Kabamba était à la supervision. Alain Irung à la coordination. Willem Lungamba à la mise en onde. Je me nomme Nico Kalambay. Excellente suite de nos programmes sur Okapi Radio.